professionnel. Et on m'a donné des listes pour employé de commerce, c'est ce que je voulais faire. Ou autrement, aide en médecine dentaire aussi, j'aurais bien voulu faire. Alors on m'a donné des listes de patrons. J'ai été les visiter, tout ça. Puis un patron, il m'a téléphoné un mois plus tard en disant que je pouvais venir signer mon contrat d'apprentissage.
En fait, t'as attendu longtemps, ça a été dit.
Des fois, je désespérais même. Faut vachement crocher. En tout cas, moi, j'ai eu de la peine. Même en sortant de scientifique, bon, j'étais pas promu. Mais c'était dur.
Et les contacts avec les patrons, les différents patrons que tu as vus, ça s'est passé comment?
Ben, les contacts, les premiers contacts sont toujours assez sympathiques. On essaye nous faire aimer le boulot qu'on aura, en disant que, en nous mettant en confiance. Et puis, après, maintenant, mon patron, et ça va très bien avec mon patron, mais c'est le chef du personnel qui...
L'apprentissage. Ils sont 186 000 en Suisse à suivre un apprentissage. À Genève, 38% des jeunes gens sont en apprentissage.
Alors, monsieur Jacquemot, vous êtes sociologue, vous avez écrit un important ouvrage sur l'apprentissage et c'est à ce titre que nous vous avons approché. Alors voici ma première question. Il y a une dizaine d'années, disons 15 ans environ, l'apprentissage était réservé aux jeunes de 15 à 17 ans, qui pour la plupart sortaient du cycle d'orientation et n'avaient pas obtenu les moyennes suffisantes pour entrer au collège, ou à l'école de culture générale, ou bien à l'école de commerce. Qu'en est-il actuellement?
Alors actuellement, un nombre croissant d'apprentis, et ça remonte au moins une quinzaine d'années, cette évolution, un nombre croissant d'apprentis sortent... non plus du cycle d'orientation, donc directement de l'école obligatoire, mais on fait une année de collège, un degré préparatoire de l'école de commerce, une ou deux années d'école d'ingénieur, etc. Et par conséquent, tendent à faire barrage à l'entrée en apprentissage aux jeunes qui, eux, sortent directement du cycle d'orientation. Ça, c'est un des traits marquants de l'évolution. Ces jeunes sont toujours des jeunes qui n'ont pas obtenu... les moyennes pour entrer, donc je parle de ceux qui sortent du cycle d'orientation, hein, sont toujours des jeunes qui n'avaient pas les moyennes pour entrer dans une formation de type général ou une formation professionnelle scolarisée. La grande différence, c'est qu'ils sortent justement à cette concurrence de jeunes qui, eux, ont eu à la fin du cycle les moyens scolaires d'entrer dans une formation post-obligatoire, soit en raison d'échecs, soit en raison de ras-le-bol, comme on dit, ils ont préféré abandonner la formation générale, se retournent vers le marché d'apprentissage et alors entrent dans des places d'apprentissage où la sélection scolaire ou les exigences de type scolaire sont plus importantes, qui sont en même temps les places d'apprentissage les plus intéressantes.
Monsieur Gabiou, directeur de l'Office de formation professionnelle.
L'apprentissage lui-même a donc un certain nombre d'exigences qui sont des exigences fixées par voie réglementaire. Ce sont des exigences soit fédérales, si l'apprentissage est fédéral, soit des exigences cantonales, si c'est nous, sur le plan cantonal, qui avons édicté le règlement d'apprentissage. Alors il est évident que ceux qui n'ont pas les possibilités d'accéder à ces exigences ne peuvent pas obtenir le certificat final de l'apprentissage. Et ceci correspond simplement à un maintien des exigences nécessaires aujourd'hui vis-à-vis des formations. On pourrait imaginer que l'on baisse régulièrement les exigences, mais alors le titre professionnel de personnel qualifié n'existerait plus. Alors les autres solutions sont multiples. Il y a d'abord ce que nous appelons la formation pratique. Il y a des jeunes qui, dans leur formation, aujourd'hui en tout cas, peut-être que plus tard ils se développeront, mais aujourd'hui manifestent une aptitude importante au point de vue du travail manuel, mais manifestement ce qui leur rend l'accès à l'apprentissage difficile, c'est le côté scolaire de l'apprentissage. Pour eux, il existe une possibilité cantonale de formation pratique. C'est-à-dire qu'ils suivront l'apprentissage dans une entreprise, ils auront quelques cours éventuellement minimaux pour aborder cet apprentissage, et en fin de formation, ils suivront uniquement les examens pratiques de la formation. Et ils reçoivent un certificat de formation pratique, certificat cantonal. L'autre possibilité, pour des élèves qui ont ou des jeunes qui ont encore plus de difficultés scolaires en particulier, mais peut-être aussi d'autres difficultés personnelles, je dirais sociales, c'est l'autre solution est donc la formation élémentaire. Cette formation élémentaire consiste à voir pour une personne, pour un jeune, ce qu'il peut réellement faire. Nous le voyons avec l'entreprise et le jeune en particulier. Ces jeunes nous sont envoyés par des assistants sociaux, des services de placement, l'assurance invalidité, etc. Et avec eux, alors, on va créer, en quelque sorte, une formation professionnelle à la carte. C'est-à-dire qu'en fonction de leurs aptitudes, de ce qu'ils savent faire, parce qu'on les observe en stage pendant quelque temps avant, on fixe un programme à l'entreprise, programme que l'entreprise s'engage à suivre pendant le temps de l'apprentissage. Mais ce programme est individuel dans ce sens que si vous avez deux jeunes dans une même profession, ils auront probablement un programme de formation différent, en fonction de leurs aptitudes et de ce que peut donner cette entreprise. Cette formation va durer 2 ans, nous la suivons régulièrement également, et en fin de formation, il n'y a pas un examen, mais il y a une sorte d'analyse assez précise de ce qui a été réellement réalisé par rapport au plan de formation du départ. Et ce jeune ne reçoit pas un certificat fédéral de capacité, lequel certificat ne mentionne finalement que la profession, parce que tout le monde sait quel est le contenu de cette profession, puisque ça existe dans un règlement. Ici, comme il n'y a pas de règlement, ce jeune va recevoir une attestation de formation qui détaille d'une manière précise tous les gestes professionnels qu'il connaît, qu'il sait et qu'il peut assumer. C'est donc une deuxième manière d'aborder ceux qui ne peuvent pas faire un apprentissage. Et il y a d'autres cas également. Non seulement ceux qui ne peuvent pas, mais peut-être ceux qui ne veulent pas faire tout de suite un apprentissage, qui préfèrent travailler une année pour se donner la main, si vous voulez, pour sortir du système d'école, du système de formation. Alors ceux-ci sont pris en charge jusqu'à 19 ans, la loi sur le travail nous le demande formellement, par un autre service que vous verrez, le service des jeunes travailleurs.
Monsieur Casagrande, conseiller d'orientation.
Mon rôle, c'est d'aider le jeune à faire un choix professionnel à partir de ses propres désirs et à partir de ses propres projets. C'est ça qui m'intéresse lorsque je le vois. Et à la limite, s'il n'a pas de désir de projet, mon principal souci, c'est de l'aider à faire en sorte qu'il en ait. Et s'il n'a pas de désir et de projet, pourquoi il n'en a pas? C'est mon premier souci. Plus encore que de le diriger dans une direction ou dans l'autre. C'est lui qui se dirigera dans une direction ou dans l'autre. C'est pas moi qui l'amènera ou qui le dirigera. À la limite, je donne très peu de conseils, vous savez, au niveau d'un choix professionnel. Mais j'essaie de mettre en condition l'élève qui vient de voir, de réaliser ce qu'il a envie de réaliser et en le mettant en garde par rapport à un certain nombre de réalités qu'il va rencontrer en quittant mon bureau. Étant donné le nombre de places limitées par rapport au nombre des candidats, la tendance est de lever les exigences. Et pour certains élèves qui n'ont pas encore atteint ces exigences, c'est clair que ça fait le barrage, à ce moment-là, est une véritable sélection. Dans d'autres cas, il s'agit au fond plus que d'un barrage, d'une manière au fond pour l'employeur et aussi pour l'apprenti de voir au fond quelle est la situation au début de l'apprentissage. C'est une manière au fond de se rendre compte que pour entrer dans certaines professions, il faut avoir acquis un minimum indispensable de notions pour ne pas aller devant des échecs inévitables. On commence une profession qui est trop limité, qui est trop spécialisé au départ, les possibilités de mobilité, évidemment, sont moins nombreuses. L'important, c'est le premier choix. Ce premier choix détermine le deuxième déterminant le troisième. Donc, il s'agit, pour moi, je me mets toujours dans la perspective d'aider un élève qui se trouve dans un cycle d'orientation, au fond, de l'aider à faire en sorte, au fond, que le premier choix soit le plus proche possible de ce qu'il souhaite. Et en même temps, je le rends attentif, effectivement, les possibilités de changement qu'il pourrait avoir en cours de route. Mais c'est rare qu'au début, se préoccupe beaucoup de cette question. Pour l'élève, la question, c'est de savoir, au fond, s'il peut ou ne peut pas entrer dans une profession. Et moi, par contre, je le rends attentif. Attention, si tu entres dans telle profession, tu auras plus de difficultés, au fond, à changer que dans d'autres.
Monsieur Amos, sociologue.
On peut aussi se poser la question de l'avenir de l'apprentissage à partir de l'évolution récente. Est-ce qu'on constate au niveau de l'évolution récente, ce qu'on a rapidement dit tout à l'heure, c'est que les jeunes qui sortent du cycle d'orientation ont de plus en plus de peine à trouver une place d'apprentissage, notamment là où ils aimeraient entreprendre une profession, parce qu'ils sont soumis à une assez forte concurrence de jeunes qui ont fait une formation post-obligatoire partielle et puis qui, avec de meilleurs outils scolaires, si on veut, peuvent se présenter à la sélection, à l'entrée en apprentissage. Donc, en somme, quelque part, les exigences formelles à l'entrée en apprentissage sont devenues de plus en plus importantes. Cette évolution pourrait bien se continuer. Je doute personnellement que parce que le marché du travail se détendrait, on trouverait tout à coup à nouveau facilement des places d'apprentissage à partir d'une 9e générale du cycle d'orientation. La tendance à long terme, depuis le début du siècle, c'est de plus en plus de formation, de plus en plus de scolarité. Hein. Pratiquement aujourd'hui, on fait l'école jusqu'à 18 ans ou 19 ans, et même pour un quart des jeunes à Genève jusqu'à 25 ans. Donc la période de scolarisation tend à s'allonger. Et je crois que ça va continuer. C'est une tendance lourde, ce qui veut dire qu'on aura un nombre qui continuera à croître, une fraction des jeunes plus importantes qui font une formation générale. Ça produit de l'échec, forcément. Hein, je veux dire, comme, oui. Toute formation produit de la sélection et de l'échec. Et donc, on continuera à avoir des jeunes qui ont fait 10, 11 ans, 12 ans d'école, qui entreront en apprentissage. Ces jeunes-là, ils se placent dans les professions les plus recherchées, les plus valorisées, et par conséquent, ils continueront à faire obstacle à l'entrée dans ces formations, faire obstacle aux jeunes qui, eux, sortent directement du cycle d'orientation. Si on regarde, encore une fois, avec un peu de recul d'un siècle à peu près, l'évolution, le nombre de jeunes qui font une formation, qui obtiennent un diplôme, tend à croître. Ça, c'est une évolution tout à fait évidente. La fin ultime, c'est 100% de diplômés, c'est tous les jeunes qui ont un diplôme. On n'en est pas très éloigné à Genève, puisqu'on est pratiquement à 90% des jeunes qui ont un diplôme. La formation élémentaire, quelque part, risque de s'adresser aux 5 à 8% de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de diplôme, et puis se trouveront à ce moment-là avec un papier. Maintenant, reste la question encore de la valeur de ce papier. Alors, ça s'inscrira probablement dans le même type d'évolution générale que celle qu'on constate pour les autres diplômes, c'est-à-dire à la fois plus de jeunes les ont, mais ces mêmes diplômes ont moins de valeur.
Monsieur Lederman, service des jeunes travailleurs.
Je pense que les grandes difficultés sont que le monde du travail s'est en quelque sorte rétréci pour des personnes qui n'ont pas de qualité, c'est-à-dire de qualifications. Alors les petits travaux deviennent de plus en plus rares, alors que dans la période de grand boom, pour des jeunes qui sortaient du cycle, avaient l'occasion de faire relativement facilement des petits travaux. Maintenant, notre grande difficulté, c'est justement de trouver des postes de travail pour des jeunes en difficulté qui ne sont pas dans une voie formative, un apprentissage ou une école, et qu'ils aient quand même une occupation.
Madame Claire-Lise Crétenant, commissaire d'apprentissage.
Donc il faut avoir fait un apprentissage dans la branche pour laquelle on va devenir commissaire d'apprentissage, travailler toujours dans le même domaine ou avoir travaillé plusieurs années. Actuellement, il manque beaucoup de commissaires d'apprentissage et c'est pour ça qu'on est bien content d'avoir quelqu'un, même si la personne n'a pas effectué vraiment le nombre d'années nécessaires. Autrement, je suis quand même nommée par mon syndicat, et je fais ce travail quand même pour une raison syndicale, quand même, aussi. Et nous avons un petit groupe à l'intérieur du syndicat de commissaires de toutes les entreprises, et nous essayons de discuter un petit peu de nos problèmes en tant que commissaire d'apprentissage. Je dépends de l'Office d'orientation professionnelle pour le travail de commissaire d'apprentissage. Mais c'est vrai qu'au niveau de la supervision, chacun fait un petit peu comme il veut. On a bien un assistant d'apprentissage qui est donc fonctionnaire de l'Office d'orientation professionnelle, qui est un peu responsable de nous. Hein, c'est lui qui peut nous convoquer, qui assiste aux commissions d'apprentissage. Et c'est avec lui avec qui nous avons affaire, si pour des cas spéciaux d'apprentis qui poseraient des problèmes. Mais on peut faire un petit peu comme on veut. Il y a des commissaires d'apprentissage qui sont nommés depuis plusieurs années, qui font ce travail parce que le syndicat qui les a nommés a besoin d'eux, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de personnes à présenter. Et c'est vrai que certains commissaires le font vraiment un petit peu n'importe comment. Les apprentis leur envoient le carnet à domicile, ils leur signent le carnet, ils les renvoient chez eux, ils voient les apprentis une fois par année et encore. Pour chaque métier, il y a des commissions d'apprentissage. Bon, je parlerai plus particulièrement de la commission 23, qui est la commission des employés de commerce. Et c'est une très grande commission qui représente, je crois, 200 personnes, qui est donc une commission paritaire où il y a des représentants des patrons, des représentants des employés, des commissaires. Tous les commissaires font partie de cette commission. L'Office d'orientation professionnelle en fait partie aussi. Et là, malheureusement, les commissaires, en tant qu'individus, ont très peu de place, très peu de pouvoir. Ils sont convoqués à cette commission qui se réunit une fois par année. Mais le bureau de cette commission est élu souvent d'une façon très formelle, c'est-à-dire que lors de la commission d'apprentissage, de la réunion annuelle, on présente les anciens membres qui se représentent, ou les nouveaux membres. On demande aux gens présents d'accepter leur nomination, mais on n'a jamais demandé à l'Assemblée à une personne de l'Assemblée de se présenter. Donc on n'a aucun pouvoir, si ce n'est de se faire représenter dans l'intérieur de nos syndicats. Mais par exemple, pour moi, mon syndicat n'est pas assez représentatif, si bien que nous n'avons personne du bureau. Aucun membre de notre syndicat ne peut être dans le bureau. Même si nous avions une candidature, nous ne pouvons pas la présenter. Alors évidemment, le pouvoir est très restreint. Il y a aussi une réunion. L'Office d'orientation professionnelle s'était rendu compte du peu d'échanges qui pouvaient avoir lieu lors de telles assemblées. Donc, ils ont organisé actuellement des sous-groupes de commissaires d'apprentissage. Et nous nous réunissons une autre fois par année, en automne, avec une vingtaine de commissaires dans le sous-groupe dont je fais partie. C'est un certain domaine des activités du bureau, avec l'assistant d'apprentissage qui est responsable de ce sous-groupe. Alors là, évidemment, le contact est plus facile, nous pouvons poser des questions, nous pouvons débattre de certains sujets, mais ce sous-groupe n'a aucun pouvoir décisionnel.
Monsieur Amos, sociologue.
Aujourd'hui ne vous permet plus d'entrer dans la vie active pratiquement. On connaît les problèmes de débouchés ou de placements professionnels pour nombre de diplômés de l'université. Donc la même pression qu'on a si on veut à l'entrée en apprentissage des jeunes qui ont fait plus que le minimum requis et qui diminue les possibilités de ceux qui n'ont que ça comme possibilité, cette même évolution-là, on la voit à l'entrée du marché du travail pour l'ensemble des formations. C'est-à-dire quelque part, il y a une pression des jeunes qui ont des diplômes supérieurs à ce qu'on attendait jusqu'à maintenant pour un emploi donné, pression de ces jeunes-là sur ceux qui ont juste le minimum qu'il faut formellement pour entreprendre telle profession. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle une déqualification structurelle. Un diplôme vaut de moins en moins. Alors on peut douter que ces diplômes de formation élémentaire aient une grande valeur.
Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces jeunes qui n'arrivent pas à s'insérer et qui sont très préoccupés, très inquiets par leur situation ?
Alors, qu'ils soient préoccupés, inquiets, ça je crois que c'est vrai. Donc, dans l'étude que nous avons faite sur les ruptures de contrat d'apprentissage, on a eu des entretiens avec des maîtres d'apprentissage, des apprentis et les parents, pour aborder un peu les questions de pourquoi la rupture, comment ça s'est passé, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et ces jeunes, dans l'ensemble, sont effectivement tout à fait préoccupés par l'avenir. Donc, à la fois savent qu'il faut un diplôme, un papier, comme ils disent, que c'est indispensable. Savent, pour un certain nombre d'entre eux aussi, que l'avenir n'est pas rose, enfin, qu'ils se heurteront à des difficultés dans leur profession ou pour une activité professionnelle. Alors, le fait est que ces jeunes, on l'a dit, sont de moins en moins nombreux, statistiquement, ceux qui n'ont pas de diplôme, mais quelque part, moins ils sont nombreux, si je puis dire, et plus ils posent un problème grave, plus ils sont identifiés, plus on les voit, plus ils sont visibles, et en même temps, plus leurs problèmes sont graves, concentrés, parce qu'ils concernent une petite minorité qui est dans une situation qui devient à la limite impossible. Hein. Et il n'y a pas de doute qu'on doit aborder cette question-là, on doit y trouver une réponse, faute de quoi, enfin, on va voir la marginalité sociale enfin, devenir vraiment tout à fait visible quotidiennement dans la rue, dans les journaux, à travers la délinquance, les difficultés, le petit vol, etc. Bon, quel type de solution, ça? Je ne sais pas, hein, je veux dire, il s'agit... Bon, on dit généralement, on ne peut pas les laisser à la rue. Je suis frappé, dans les entretiens que nous avons conduits avec des maîtres d'apprentissage, le nombre de maîtres d'apprentissage qui ont conscience, malgré les difficultés qu'ils ont eues avec leur apprenti, souvent d'ailleurs liées à la discipline, au respect des horaires, etc., du nombre de maîtres d'apprentissage qui disent « mais on ne peut pas les laisser à la rue, je ne pouvais pas le jeter dehors, et j'ai dû attendre qu'ils trouvent une autre situation, une autre... » Parce que enfin, bon, toute l'image de la rue comme milieu prédélinquant, comme milieu enfin, de marginalisation, mais aussi de déclassement. Donc il y a cette prise de conscience qui commence, en tout cas chez les maîtres d'apprentissage directement confrontés à cette population. Je pense qu'on trouverait la même chose chez les travailleurs sociaux. Donc ce vers quoi on va tendre certainement, et je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais enfin, et là sa logique, c'est une prise en charge de ces jeunes dans un système où on leur donne malgré tout une formation professionnelle, des chances d'insertion. Alors ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être une espèce de sous-apprentissage. Moi je me dis quelque part, ce sont des jeunes qui n'ont connu que l'échec. Il faudrait pour eux, à un moment donné, essayer une espèce de pédagogie de la réussite, comme on dit dans les milieux de la formation. Leur donner une chance de se trouver une identité positive, plutôt que... de continuer dans cette suite d'identification négative. T'as pas réussi à l'école, t'as pas trouvé la place d'apprentissage que tu voulais, t'as pas eu le comportement ou l'assimilation qu'il fallait dans l'apprentissage, tu peux pas faire l'apprentissage. Donc tout ça est toujours une identification négative. Est-ce qu'on peut une fois essayer de leur donner une identité positive, leur donner une chance, comme oui. On dit.
En fait c'est ça, c'est un problème humain.
C'est un problème humain, mais c'est aussi un problème social. C'est-à-dire que les difficultés de se situer dans la société entraînent des problèmes non seulement pour les jeunes ou les gens qui ont ces difficultés à se situer, mais aussi pour la société qui en subit les retombées.
Ce dossier vous a été proposé par Daniel Pouza et Pierre Delapre, avec la collaboration de Marielle Budry et Léon Méné.